du jour au lendemain avec Roger Munier. Roger Munier publie Opus Incertum 1984-1986 chez Gallimard. Écrire de telle manière qu'on ne puisse rien en dire ni commenter. Je ne décris pas. J'arrache des lambeaux au dehors quand il veut bien, ou à moi-même comme dehors. Comme ça fait un sacré bout de temps, Roger Munier, que vous n'êtes pas venu dans cette émission, puisque maintenant vous êtes retiré, pas très loin, mais enfin tout de même, dans les Vosges. Donc Paris, bon, vous venez pas spécialement à y venir
non, j'y viens
tous les deux jours.
Oh, non, vraiment.
Donc il faut vous inviter pour que vous veniez.
Je me demande même si ce n'est pas parce que c'est vous qui m'avez pressenti que j'ai accepté de faire la route, hein. Qui est quand même une assez longue route pour moi, puis surtout un dépaysement dont je ne crois pas toujours qu'il soit très utile, mais avec vous, c'est tout différent.
Vivre au pied des Vosges, ça donne une certaine idée de la hauteur ?
Non, c'est pas, nous ne sommes pas sur la hauteur. Ça donne, dans ce coin où nous habitons, ça donne le sentiment d'un retrait assez heureux, finalement, dans la nature qui est rude, il faut bien le dire, à l'approche des montagnes, mais qui n'est pas la nature des hautes montagnes. Je ne me plais pas beaucoup dans la haute montagne. J'aime pas d'avoir devant moi ces murs, ces surgissements, ces défis que sont les pointes, les arêtes, les masses, blanches ou non. Moi, je serais plutôt un homme de la mer. J'aimerais mieux être face à la mer que face à la montagne. Alors là où nous vivons, c'est une campagne tranquille, peu visitée. Ça me convient parfaitement.
Je ne sais pas où vous étiez justement en 84, 85, 86, qui sont les années de cet opus Incertum. On aura l'occasion d'en reparler. Mais j'ai noté que vous étiez quand même très sensible au paysage,
ah oui,
à la végétation, à la couleur du ciel,
énormément.
À la météorologie générale.
Oui, ça m'accompagne d'une manière qui n'est pas seulement naturelle et si j'ose dire écologique, non. Ça m'accompagne en profondeur. Il y a un garçon qui fait une thèse sur moi à Lille, l'Université de Lille, et qui m'a dit sa surprise de cet intérêt que j'avais pour les choses du dehors. Je lui ai dit que c'est le caractère originaire, pas du tout événementiel, mais beaucoup plus en profondeur, des choses qui peuvent se passer autour de soi quand on est à la campagne, qui développait chez moi un sens aigu à la fois de l'observation minutieuse et du décrochement, voilà, vous savez.
Alors justement, dans un rayon de soleil qui tout d'un coup traverse un nuage, on peut lire plus de choses que dans un livre.
Sûrement. Sûrement, on lit et on ne lit pas, n'est-ce pas? On est un peu lu par l'événement, c'est ça aussi qui compte. Et on s'efforce de transcrire tout en sentant qu'on transcrit mal et que ce n'est pas nécessaire du tout. L'expérience que je fais de l'écriture, c'est une chose qui n'est absolument pas nécessaire, qui n'ajoute rien à rien, mais qui est un contrepoint, sans doute utile, mais rien ne vaut d'être sur place et de voir effectivement le nuage, le soleil qui est à un moment éclipsé par le nuage, puis qui revient sans se demander ce que ça veut dire. Parce que ça veut beaucoup dire et ça ne veut rien dire. Moi, ce qui me passionne, c'est cet intermédiaire-là.
Et dans le ciel, on lit aussi plus de choses que dans un visage.
Alors ça, c'est très différent parce que le visage humain était très important. C'est une énigme, c'est la grande énigme, n'est-ce pas, de l'homme. Elle est plus, c'est plus, je trouve que le visage humain est plus important et dit plus de l'énigme humaine que l'esprit de l'homme, qui après tout est tout à fait admirable, mais peut s'imaginer chez des anges ou chez de purs esprits. Le visage est concret. Et il surgit devant vous avec presque une brutalité, je dirais, qui parfois me domine entièrement. J'ai peur de voir un visage, parce qu'un visage, c'est un mystère incroyable. La nature est beaucoup moins mystérieuse et elle se laisse contempler. Ou les bêtes. Mais même les bêtes. Le regard intense d'un chien qui n'est pas trop anthropomorphisé, n'est-ce pas, et qui reste avec son suspens, introduit un mystère, ça c'est sûr. Mais la chose je ne cherche pas des visages, autrement dit, parce que j'en suis un peu terriblement et tout de suite dominé et effrayé.
Le visage garde le mystère et en même temps, il ne ment pas.
Il ne ment jamais, le visage, surtout quand il est surpris. C'est extraordinaire ce que peut révéler sur la personne et qu'elle ne sait pas elle-même, bien souvent, d'elle-même. Et qu'elle ne sait pas d'elle-même et que son visage révèle d'elle-même dans des mouvements furtifs. Que le photographe parfois s'est capté, n'est-ce pas ? C'est ça la merveille aussi de la photographie, oui.
Et vous, Roger Munier, ce que vous ne savez pas de vous-même, ce sont vos écrits qui vous le révèlent ?
Plutôt, mais encore, si j'ose dire, bien à ma stupeur un peu. Je ne m'y contemple pas comme dans un miroir où je suis satisfait de constater que c'est bien conforme un peu à l'idée que j'ai. Non, pas du tout. Mes écrits m'emportent, me dominent énormément. Il y a dans l'attitude intellectuelle qui me paraît la vraie, la plus forte, il y a ce sentiment d'être dominé. Et l'écriture, au fond, c'est quelque chose comme une domination de la domination. C'est un mouvement parfois extrêmement efficace, mais toujours, je le crois, en deçà. Et à vous dire vrai, maintenant que j'ai tout de même quelque chose comme une œuvre derrière moi et une réflexion dont la cohérence parfois m'apparaît, c'est ça qui me rassure, si vous voulez. C'est la cohérence. Mais que j'ai touché quoi que ce soit, ça, très franchement, je ne le crois pas.
Mais la cohérence, c'est quand on garde le dessus, quand
oui,
on ne se laisse pas dominer, justement.
C'est ça. Je ne suis pas. Il ne faut pas être passif. L'écriture est tout sauf une passivité, il me semble. Mais en même temps, elle doit être extrêmement réceptive. Le plus possible réceptif. On ne devrait jamais corriger des textes qu'en fonction du degré plus ou moins juste et élevé de la réceptivité qu'on a montré en écrivant. Et non pas... On peut toujours faire une toilette à un texte, c'est bien évident, n'est-ce pas ? Éviter des répétitions, des choses comme ça. Mais chercher la cadence, ça, non. Mmh. S'il y a une cadence dans certains des textes, surtout brefs, c'est une cadence qui n'est pas de moi, qui me vient de l'impulsion de penser elle-même. C'est en ce sens que je dis que... Yvonne Foy me disait, ne le racontez pas, je vais vous envoyer quelqu'un, ne lui dites surtout pas que vous n'êtes pas poète, n'est-ce pas ? Et pourtant, je ne me sens pas poète parce que si je suis poète, c'est à mon corps défendant. C'est tout. Et je soupçonne, ou je crains que l'écriture qui se heureuse, qui est une chose bien agréable, une des choses agréables de la vie, de lire une écriture heureuse, ne soit un peu en deçà de son appel profond, il me semble. Et moi, je ne peux pas dire non plus que ça soit dicté, parce que ça ne sera effectif que lorsque je mets le point après la phrase ou après le texte bref. Et c'est tout de même moi qui l'ai écrit. Mais en même temps, je ne me mets pas à ma table de travail pour ça, n'est-ce pas ? Ma femme pourrait vous dire que la maison est pleine de petits papiers, de petits tas de papiers blancs, n'est-ce pas, qui m'arrivent d'en piquer un et de noter une chose qui vient de me traverser l'esprit fortement. Et il n'y a, pour ainsi dire, ça vraiment parole d'honneur, pas de différence entre le texte publié et celui qui m'est ainsi venu. Il vient, donc il fallait que je sois ouvert à lui. Mais d'abord et avant tout, il est venu.
Cette réceptivité dont vous parliez, Roger Munier, c'est aussi une forme d'ignorance sans laquelle on n'écrirait rien.
Mais voilà. Vous disiez au début, dans la question que vous m'avez posée, qui était très pertinente, que c'était pour savoir un peu ce qu'on pensait, n'est-ce pas ? Que l'on écrivait, c'est-à-dire que l'on pensait pour écrire. Ça, c'est sûr. C'est sûr. Et l'ignorance est le moteur de l'écriture et même de l'œuvre. Je crois que les penseurs les plus cohérents, les plus systématiques, mettons Hegel, par exemple, devaient avoir son petit canton d'incertitude qui alimentait ce qui venait, ce qui continuait de venir. Pourquoi dit-on que ça vient ? D'où est-ce que ça vient ? Ça vient. On ne dit pas « je l'ai fait ». Même les écrivains qui pourraient être taxés de narcissisme ou d'une très grande confiance en eux-mêmes ne disent jamais quoi que ce soit de tel. Jamais. Jamais. Ils sont toujours effacés, quant au fond. Alors moi, je pratique cet effacement comme une méthode, pour ainsi dire, si vous voulez. C'est un peu, d'ailleurs, l'attitude, mais moins brillamment développée, qui fut celle de Ponge.
Ouais. L'effacement, c'est l'ouverture à la curiosité.
Oui, tout à fait.
Et au bouleversement.
Ouais, tout à fait. Moi, je suis ouvert absolument à tout. Et croyez bien que dans cette solitude des Vosges, qui en est une quand même... Je suis extrêmement au courant absolument de tout. J'écoute la radio, je lis le journal, je regarde les nouvelles à la télévision. Et il me semble indispensable d'éprouver la pulsation du monde réel pour pouvoir être attentif à ce monde second dans le monde réel qui est un peu celui de l'écriture.
On la sent d'ailleurs, cette solitude dans Opus Incertum. On la sent, même s'il y a en permanence une tension vers l'autre.
Oui, tout à fait. Mais l'autre, vous l'écrivez comment ?
Oh, sans majuscule.
Sans majuscule, c'est pas nécessaire. Ça suffit largement. Les autres suffisent largement. Les autres sont mon obsession. Et on peut croire que je suis retiré et détaché et distant. C'est pas vrai, c'est pas du tout ça. Seulement, les autres sont parfois bruyants, font un bruit de fond qui ne facilite pas la méditation. C'est la seule objection que j'ai à leur faire. Mais moi, j'aime bien les gens, j'aime bien les autres, les paysans de ce petit village où nous vivons, qui a 140 habitants. Hein. C'est vraiment un petit patelin. C'est ce qu'on appelle en termes administratifs un écart. C'est le mot, hein, le mot employé du bourg central qui est à Villers. Le Lyaumont est un écart. Je trouve ça magnifique pour une demeure d'écrivain, non?
De temps à autre, Roger Minier, vous n'avez pas envie de l'écrire avec une majuscule, l'autre?
Bien, écoutez, si, mais je crois que c'est lui donner trop de consistance et une définition. C'est bien autre chose, si l'on peut dire, que simplement l'autre, l'autre avec une majuscule. Naturellement, il me hante, ça c'est certain, il me hante, ça c'est sûr, mais il me semble que mon appel personnel, c'était d'être un homme du seuil par rapport à tout ça, de ne pas trop vite franchir le seuil, de rester un peu dans le seuil sans participer au festin. Alors le festin me passionne, mais de façon imaginaire, il ne me nourrit pas. Alors l'autre, si vous voulez, Dieu pour moi, puisque c'est ça le mot, nous n'en avons pas d'autre, alors employons-le, le Dieu est l'absent, l'absent qui ne peut pas être autre qu'absent, étant donné que c'est un être vide et nu, pour moi, un inconnu total, où je ne cherche pas, ni auprès duquel je ne cherche pas à me placer, à qui je ne demande, pour ainsi dire, rien, mais qui existe d'une façon d'autant plus prodigieuse. Ça fait partie, si vous voulez, de tout l'ensemble, ou plutôt tout l'ensemble se résorbe en lui, ça dépend de l'idée qu'on a des choses. Mmh. Vous savez, Sainte Thérèse, la grande Sainte d'Avila, disait ceci qui est tout à fait admirable. Elle disait jouir de l'éternité, mais en prenant soin de l'éphémère. C'est un peu ma définition, quoi. Je vais chercher loin de grands ancêtres, de grandes citations, comme vous voyez.
C'est votre passage chez les Jésuites quand vous aviez 20 ans, 21
oui,
ans.
Oui.
Qui vous a fait toucher du doigt cette absence?
Non, c'est plutôt le fait de toucher du doigt cette absence qui a fait que je n'y suis pas resté. C'est-à-dire que j'ai toujours été épris de Dieu dès mon enfance, à la manière dont un enfant élevé dans un milieu catholique, très traditionnel à l'époque qui était la mienne, pouvait être ressenti, n'est-ce pas, avec beaucoup de scories et peut-être beaucoup de sentimentalité. Et puis un jour, beaucoup plus tard, au-delà de 20 ans, entre 20 et 25 ans, j'ai été saisi d'une étrange évidence, c'est que l'émotion que l'on dit mystique peut surgir à propos de tout sauf de Dieu. Que par conséquent, Dieu était à chercher au-delà ou en deçà, comme on voudra. Étant donné que nous sommes des humains, c'est plutôt en deçà d'ailleurs. Alors c'est une absence réelle, mais réelle. Mmh. Pour moi. Vous me demandiez si c'était ça qui m'avait donné le sentiment de l'absence. Peut-être, à la limite, puisque vous savez, les jésuites, qui sont des gens que j'admire énormément, avec lesquels j'ai gardé beaucoup d'amitié et d'affection pour certains, sont les gens qui pensent qu'il faut chercher Dieu dans l'action. C'est tout de même très calé comme formule. Non seulement que l'action n'est pas contre la contemplation, mais que la mystique propre de Saint Ignace et des gens qui l'a formé, c'était de tâcher de faire en sorte que l'action soit le substitut total et complet de la contemplation. C'est ce qui fait qu'il y a des jésuites qui sont biologistes, qui sont préhistoriens, qui sont artistes, qui sont... Et on se demande, on se dit, c'est le pompier de service, n'est-ce pas ? Il a trouvé la place qui lui permettait de défendre l'honneur de l'Église et tout ça. Souvent, ce n'est pas ça du tout. Souvent, c'est pour ça que j'ai gardé une grande admiration pour ces gens qui réussissent. Parce que peut-être que certains d'entre eux ne le réussissent pas. Ce n'est pas commode de trouver Dieu dans l'action. Mais réellement, pas par le bénéfice spirituel de l'action, espéré ou non, pas par le caractère dramatique, poignant, admirable de l'action, surtout de l'action politique, par exemple, qui peut griser quelqu'un sans qu'il y cherche aucune... Non, mais de trouver Dieu là, c'est-à-dire dans le quotidien. Alors moi, je suis un homme du quotidien.
Et on va dire que pendant l'absence, les travaux continuent. C'est ce qui fait que vous avez écrit tous ces livres.
Ben oui.
Parce que j'ai compté qu'il y en avait une quarantaine de livres.
Oui, il y en a une quarantaine. Ils ne sont pas tous d'égale importance, mais oui, ça fait une bonne trentaine qui sont des livres importants. Mais maintenant, j'ai encore trois ou quatre livres qui sont quasiment prêts, bien sûr. J'en ai un surtout qui a à peine commencé et que je vais sans doute intituler Adam. C'est une méditation de la Genèse, de la création, de la femme et de la chute. Considérant que la chute était inscrite dans le paradis, que le paradis était déjà perdu. Alors ça, c'est une chose qui effectivement, je vous dis ça parce que vous me posez la question, et c'est tout frais, hein, c'est tout récent, bien. Mais normalement, je pensais que non, je ne ferais plus rien que d'écrire dans mes carnets et puis éventuellement de continuer. Parce que si on continuait, si Gallimard, si ce livre se vend, ce qui n'est pas évident du tout, et si ça continuait chez Gallimard, il y en aurait encore de tout près pratiquement. 5 volumes comme celui-là. Je ne sais pas. Je ne le fais pas pour la publication. Je le fais pour que ça existe. C'est tout. C'est tout. C'est tout. Mais enfin, quand même, ça fait une œuvre. Et une œuvre remplie de choses où les événements de la vie ont eu leur place.
Alors justement, Roger Munier, vous disiez tout à l'heure que vous restiez sur le seuil, on peut dire que vous restez aussi sur le seuil des genres littéraires, vous ne franchissez pas les frontières, puisque non. Vos livres sont tout à la fois de la poésie, de la philosophie, de la théologie.
Oui, c'est vrai. Pourquoi faut-il qu'un livre s'inscrive dans une ligne claire Je ne suis pas sûr que nous ne soyons un peu accablés par les livres qui sont des livres appartenant à des genres précis. Pour une part importante, la poésie souffre aujourd'hui de s'être comme cantonnée dans un univers d'écriture poétique. Et les gens sont un peu en arrêt devant ça, alors qu'ils ne sont pas du tout en arrêt devant la poésie qui peut émerger d'une chanson de Jacques Brel des choses les plus banales et même éventuellement du texte d'un homme politique. poésie, elle est partout. Et on l'a, pour trop de gens, non, la poésie, c'est quelque chose de précis, c'est des recueils. J'ai des éditeurs qui sont souvent des petits éditeurs, qui font des choses assez jolies. La poésie, c'est cantonné dans la poésie. La théologie, c'est cantonné dans la théologie. La philosophie, c'est cantonné dans la philosophie. Mais tout ça, on n'en a rien à faire, d'une certaine manière.
Vous dites que la poésie est partout. Moi, j'aurais tendance à vous dire qu'elle est nulle part.
Oui.
Mais qu'elle surgit.
Oui,
quand...
bien sûr. Elle n'est pas attendante. Attendante là, partout. Non, non.
Elle c'est peut en nous
trouver,
qu'elle est.
Elle peut trouver sa demeure partout. Ça, c'est tout à fait autre chose.
Alors, j'aurais bien aimé qu'on parle de ces 40 livres que vous avez publiés depuis 1963, depuis le premier, Contre l'image, qui avait été publié par Georges Lambrix dans la collection Le Chemin, chez
Gallimard.
Dans
un des premiers livres de la collection, oui, oui.
Mais bon, il faut quand même qu'on ouvre le dernier publié, c'est-à-dire Opus Incertum, je ne sais pas comment vous dites, moi je dis Incertum.
Oui, oui, c'est mieux.
1984-1986.
Vous savez, c'est un terme d'architecture, oui. Il est donc à prononcer à la française, quoi.
Ce qui frappe d'abord, en dehors du titre, qui peut rester mystérieux pour ceux qui ne connaissent pas bien l'architecture...
Hélas, oui.
Ce sont ces dates qui sont en sous-titre, 1984-1986, parce qu'on voit bien qu'on entre dans une sorte de cheminement sans commencement ni fin.
Oui.
Et on se dit pourquoi tout d'un coup ces dates-là et pas d'autres. Ça a peut-être commencé bien avant, ces carnets, parce que ce sont des carnets.
Oui, bien sûr.
Une sorte de carnet. Ça doit se continuer après 1986.
Oui, sûrement.
Alors pourquoi cette espèce de coupure dans le temps? D'autant plus que... Il faut le signaler, il y a un numéro d'une revue qui vient de paraître, la revue L'Animal, publiée à Metz, qui propose un fronton, enfin un cahier, Roger Munier, par Francis Pourcade, avec d'autres opus incertum, qui sont ceux-là datés de l'été 2001. Hein. Donc là, il y a un grand saut dans le temps. Il n'y a pas que ça dans ce cahier. Il y a aussi une présentation par Chantal Collomb qui, justement, fait une espèce d'étude de ces textes. Et puis, un entretien avec vous qui éclaire encore sur ce que vous avez derrière la tête quand vous écrivez ces petits aphorismes.
Oui, c'est vrai. Oui. Mais ça continue, quoi, n'est-ce pas? C'est ma respiration, c'est quasiment quotidienne. Hein. Alors, il y a des dates, parce qu'il faut bien, mettre des dates, mais franchement, si je me suis arrêté, si je n'ai fourni comme manuscrit à Gallimard que 84-86, pas oublier qu'il y en a d'abord, il y en a deux, hein, qui sont... Il y a Opus Incertum chez Desrolles, et puis il y a La Chose et le Nom, qui est la suite d'Opus Incertum, et qui a un sous-titre Opus Incertum 2, chez Fata Morgana. Bon. Alors, tout simplement parce que je ne voulais pas faire un trop gros livre.
Mais celui-là ne reprend pas les deux livres que vous venez de citer.
Ah non, pas du tout, c'est la suite.
Oui. Alors, revenons peut-être sur ce titre qui, dites-vous, est un terme d'architecture.
Oui.
Donc, qui désigne un mode d'assemblage.
Un mode d'assemblage, oui. Vous savez, le mode d'assemblage, tout le monde connaît un peu ça, de l'architecture inca notamment. Où les pierres s'ajustaient l'une dans l'autre d'une façon telle qu'on ne pourrait pas y introduire. Moi, je l'ai vu au Cusco, une lame de rasoir, n'est-ce pas, à leur jonction. Elles sont taillées de façon inégale, mais elles s'imbriquent l'une dans l'autre et pour former finalement un mur ou un dallage.
Donc il y a l'idée que ça marche ensemble, mais temps qu'il y a de l'irrégularité.
Ah oui, tout à fait, oui. Et qu'on peut prendre chaque pierre l'une en elle-même, qu'elle n'a pas tellement grand-chose à voir avec le reste, mais que finalement, peut-être, au terme, ça fait un opus. Pourquoi opus, d'ailleurs, je n'en sais rien.
Donc il y a du désordre.
Oui, du désordre.
Mais le désordre... reste contrôlé.
Reste contrôlé, mais pas par moi. Il reste contrôlé par la cohérence qui doit régner au sein d'une pensée vraiment réceptive et ouverte, vous comprenez ? Cette cohérence, c'est un pari et un peu un espoir, plutôt qu'une réalité. Je ne sais pas ce que j'ai vraiment voulu dire, ni ce que j'aurais voulu dire, si un jour tout est publié.
Il y a l'idée d'incertitude, quand même.
Ah oui, tout à fait. Ben alors, c'est cet incertitude qui me plaît au moins autant que l'opus. L'opus a quelque chose d'affirmatif et, pour ainsi dire, de conquérant, d'un peu conquérant. Mais incertitude est un mot très fort et je lui donne le sens de l'incertitude aussi.
Le livre de Roger Munier, Opus Incertum, 1984-1986, est publié chez Gallimard. Et je rappelle ce numéro de la revue L'Animal, numéro 11-12, avec un cahier Roger Munier. Du jour au lendemain, Cédric Chatelus, Doria Zénine, François Poirier, Alain Weinstein. Bonsoir.